Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Dans quelques semaines, Noël et son orgie de chocolat, mais pour nombre d'entre nous, les délices orgiaques cacaotées, c'est tous les jours, en tablette, noire ou au lait, en bouchée, sous forme de tarte, de boisson chaude bien crémeuse, de mousse, de fondant, de moelleux, ou encore de bar industriel au nom de Planète. Nous vous racontons ce matin les 500 ans d'histoire qui nous relient à ce produit symbole absolu de gourmandise. Nous verrons comment bien choisir ces tablettes, quelles sont les véritables vertus nutritionnelles du chocolat? Comment les fèves de cacao se transforment-elles en produits chocolatés? Nous évoquerons également les terribles conditions de travail dans certaines plantations africaines, des conditions qui peuvent couper l'appétit. Avec nous ce matin, la journaliste spécialiste d'histoire de la gastronomie Nathalie Elal et le producteur de cacao et chocolatier Bertil Akesson. Toutes vos questions sur le chocolat au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Quel rapport entretenez-vous avec ce produit hautement addictif? Contactez-nous également si vous n'aimez pas du tout cette gourmandise. Bonjour Guillemette Odissino.
J'allais dire au chocolat.
Oh, que c'est mignon. Bonjour Ali.
Alors, vous êtes la reine de la blanquette de veau. Vous avez déjà essayé la blanquette de veau au cacao?
Je sais pas si c'est bon. Alors, effectivement, il faudra m'expliquer cette mode, en fait, qui a l'air d'être un peu passée sur la fève de cacao partout, là. Mais, en revanche, je suis bien contente parce que grâce à Nathalie Elal, j'ai découvert l'origine de mon chocolat préféré, le Jean Douja.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Nathalie Elal.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, spécialiste d'histoire de la gastronomie et vous publiez chez Albin Michel un très joli livre, Dictionnaire exquis du chocolat. Bonjour Bertil Akesson.
Bonjour Ali.
Vous êtes producteur de fèves de cacao et chocolatier. Vous fournissez les plus grands confiseurs et pâtissiers du monde. Nathalie Elal, cela fait 500 ans que nous vivons une histoire d'amour passionnée avec le chocolat. Comment nous est-il parvenu?
Eh bien, sans les conquistadors, je pense qu'il n'y aurait pas de chocolat aujourd'hui dans ce monde parce que, en fait, tout est parti d'un aventurier qui s'appelait Hernán Cortés, qui a débarqué au Mexique en 1519 et qui a voulu conquérir ce pays. Alors, à l'époque, il n'était pas du tout question de chocolat, il ne savait pas du tout ce que c'était d'ailleurs, il voulait surtout ramener de l'or et des épices. Donc, il débarque au Mexique avec un petit nombre d'hommes, une petite armée et puis des chevaux. Et ça, c'est un détail très important. Bien sûr, il y a des armes aussi, mais l'arme fatale, vous allez le comprendre, ce sont les chevaux. Parce que les Aztèques, qui sont là, en place, au Mexique, ne connaissent pas cet animal. Ils vont avoir très peur des chevaux et ils vont littéralement s'agenouiller devant Cortés, qui est pour eux en plus l'incarnation d'une prophétie, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est le dieu serpent à plumes Quetzalcoatl qui revient sur Terre et qui vient les soumettre. Et grâce à cette peur des chevaux, Cortés va rencontrer l'empereur aztèque Moctezuma, qui refusait plus ou moins de le recevoir, et il va pénétrer dans son palais, il va goûter à ce breuvage qu'on réserve aux initiés et aux hôtes de marque. Et puis, il va surtout remarquer, Cortés, que ce breuvage est servi dans des coupes en or. Et bien sûr, les conquistadors ont cette flamme qui s'allume dans les yeux à la vue de l'or. Et puis, petit à petit, il va comprendre l'importance du cacao, qui sert également de troc, hein, puisque le cacao est sous forme de fève, il est stocké dans le palais de Moctezuma, et cette fève est une monnaie qui sert à échanger plein de choses. Donc, il va comprendre cette valeur marchande. Et puis, petit à petit, par un bouleversement incroyable de l'histoire, ce chocolat qui d'abord paraît très rébarbatif aux conquistadors parce qu'il est amer, c'est une boisson amère, il n'y a pas de sucre, il y a surtout des épices locales assez violentes pour le goût européen, eh bien, des religieuses venues de l'Ancien Monde vont le transformer, y ajouter du sucre et ça va tout changer.
Alors, au commencement de nos gourmandises chocolatées, au commencement de la tablette que vous nous avez apportée, Bertil Akesson, excellente tablette de chocolat, eh bien, il y a la fève. Décrivez-nous une fève de cacao.
Alors, il y a l'arbre, le cacaoyer, qui supporte des cabosses. Ce sont des fruits qui sont différents parce que ils poussent sur le tronc de l'arbre. Ils pendent pas comme une pomme aux branches. Et dans cette cabosse, vous avez une quarantaine de fèves, mais ça s'arrête pas à la récolte de la fève. Il faut ensuite la processer. Il faut la fermenter. C'est tout un travail qui dure 5, 6, 7 jours selon les climats, les pays, les variétés.
Pourquoi c'est important la fermentation?
Ça va libérer le goût. ça va vraiment développer le goût. Il faut le faire proprement, ça peut être trop fermenté, pas assez fermenté. Et c'est un passage important dont on parle souvent, mais il y a aussi le séchage après. Il y a différentes étapes qui sont toutes aussi importantes l'une après l'autre.
Le grand ennemi de la fève de cacao, c'est l'humidité, la pluie.
Oui, mais en même temps, sans humidité, ça ne pousse pas.
Une fois que c'est récolté, c'est l'ennemi, l'humidité.
L'humidité...
Les parasites,
mais c'est la pluie qui est... L'humidité, elle est là dans l'air, mais il ne faut pas que ce soit mouillé.
Quelles sont les grandes étapes de la transformation de la fève de cacao jusqu'au chocolat? C'est quoi les grandes étapes?
Alors, il y a la récolte, il y a la fermentation, le séchage, et ça c'est le travail du planteur. Ensuite, le chocolatier va torréfier ses fèves, et il va faire ensuite le conchage.
C'est quoi le conchage?
On va broyer. Alors il y a différentes machines qui sont des broyeuses, ou alors un mélange de sucre avec la masse de chocolat. La masse, c'est la fève broyée. Et donc, on a des recettes, 48 heures, 72 heures. Ça dépend aussi à quel moment on va rajouter le sucre. Chacun a son petit truc. Et ensuite, bon, il y a le tempérage aussi, à la fin, qu'on sous-estime beaucoup.
C'est quoi le tempérage?
C'est le retour à température. Après avoir fait le chocolat, il faut faire une transition très progressive des températures pour arriver à la tablette.
Le conchage, qui est une invention vraiment tardive et un peu une révolution dans le domaine du chocolat, il faut bien le dire, ça arrive vers la fin du 19e siècle. Et sans le conchage, on n'aurait pas cette finesse en bouche du chocolat, ce côté fondant. Parce que dites-vous bien que pendant des années, on a broyé les fèves, enfin des siècles même, on a broyé les fèves sur d'abord une pierre, ce qu'on appelait la pierre à chocolat, le métate chez les Aztèques. Donc en dessous de cette pierre, il y avait un petit feu, on broyait cette pâte et puis progressivement, on ajoutait du sucre. Donc en fait, pendant des siècles, les gens ont eu en bouche un chocolat qui était granuleux. Mmh. Et on retrouve encore cette sensation dans un chocolat qui vient d'Italie, de Sicile, le Modica. Mmh. Mais en fait, il n'y avait pas cette finesse de goût. C'est très récent.
Bertie Lacaisson, il existe des grands crus de cacao comme il existe des grands crus de vin?
Absolument. Alors, il y a d'abord la génétique. Mmh. On a des variétés de cacao reconnues. Nous, par exemple, on est reconnu comme heirloom cacao.
Ça veut dire quoi?
C'est une des variétés originelles qu'on arrive à retracer. Mm-hmm. Ça a commencé en Amérique centrale, dans le nord de l'Amazonie. Mais ensuite, il y a eu des longs voyages. Mon cacao à Madagascar est passé via les Philippines, l'Indonésie, Ceylan, avant d'atterrir à Madagascar. Mais on a pu retracer la génétique. Donc, le grand cru, il est lié à cette génétique et au terroir. Certains contestent un petit peu l'importance du terroir, mais moi je vois que c'est important. Toujours l'exemple de Madagascar, on a le haut Sambirano, le bas Sambirano. Ce ne sont pas les mêmes conditions pour le développement des arômes.
Nathalie, là, d'où vient le nom chocolat?
Ça vient plutôt de la langue aztèque, c'est Tzocoalt, je ne sais pas si je le prononce bien. En fait, il y a plusieurs interprétations possibles, mais en réalité, il paraît que ça voulait dire faire mousser, parce qu'on devait battre ce chocolat. C'est-à-dire qu'en fait, les Aztèques avaient créé cette boisson, mais il fallait l'agiter, la secouer. Et donc, il y avait une écume à la surface, et ce processus a été perfectionné ensuite par les Espagnols, qui ont inventé un petit ustensile, le moulinet, le moussoir, ensuite en France, qui est une sorte de bâton en bois qu'on faisait tourner, qu'on agitait dans le chocolat pour le faire mousser. Et il y a encore un artisan en France, j'ai vu ça très récemment, alors j'en parle, à Bayonne, une ville très importante pour la diffusion du chocolat en France. J'ai vu la maison Cazenave, j'ai vu ça ce week-end, figurez-vous, qu'on sert un chocolat chaud à la tasse qui a été battu au moussoir. C'est spectaculaire, alors il faut en parler.
Guillaume Todicino.
Mais d'après ce que j'entends, au départ, le chocolat, donc, ça se boit.
Oui,
alors
c'est une
boisson. Qui décide un jour que ça se croque?
Eh bien, heureusement, il y a eu l'invention de la tablette, mais ça, c'est une longue histoire et qui vient d'Angleterre.
On va y revenir tout à l'heure. Toutes vos questions sur le chocolat au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et je vous propose d'écouter une chanson de 1967. Cette année-là naissait la comédienne et réalisatrice Emmanuelle Berco et disparaissait le peintre Magritte. Belle journée à l'écoute. coup de France Inter, hommage à Marie Laforêt.
Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour, et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours. Oui, je t'ai quitté. J'ai beau résister, je chante parfois à d'autres que toi, un peu moins bien chaque fois. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais plus pourquoi.
Hommage à Marie Laforêt, mon amour, mon ami.
Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron.
Grand bien vous fasse.
Parce qu'il y avait un problème avec le gâteau au chocolat, il était cru. Moelleux, bizarre.
Sur France Inter.
10h20 et nous attendons toutes vos questions sur le chocolat. Quel rapport entretenez-vous avec ce produit gourmand? Quel est votre degré d'assuétude, d'addiction?
Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat.
Non.
Donnez-moi un chocolat.
Bonjour, je m'appelle Forrest, Forrest Gump. Vous voulez un chocolat?
Pas de bras, pas de chocolat.
Je crois que je pourrais en manger 1,5 million.
C'est une vanne, hein?
Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat.
C'est excellent.
On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Quand il s'introduit dans la bouche, hein, il frotte légèrement la langue, il la caresse.
En fait, on commence à se poser des questions quand on en rêve la nuit. C'est être drogué au chocolat, hein.
Une consistance onctueuse.
Mais pas tout de suite onctueuse. D'abord, c'est comme si le goût se retenait.
Déjà, et qu'après les arômes explosent. Les uns après les autres dans la bouche. Hein, comme une sorte de caresse douce amère.
Suave.
C'est pas une accoutumance du cerveau, mais c'est plus une drogue au sens affectif du terme. Tout d'un coup, je me sens bien.
Je suis fou du chocolat l'envers.
Medley signé Stéphanie Texier. Alors, quelles sont les idées reçues qui vous agacent le plus quand on parle de chocolat, Nathalie Elal?
Bah déjà, c'est quand j'entends parler de barres chocolatées, parce que je trouve que le nom est complètement impropre et presque aussi impropre à la consommation. Il faut bien le dire, parce qu'en fait, la barre chocolatée, elle a de chocolaté que le nom, en réalité, dans une barre chocolatée. Et tout ça, ça a été inventé dans les années 30, hein, les années 20, les années 30, ça date pas d'hier, hein, contrairement aux idées reçues là encore. En fait, c'est bourré de sucre, de matières grasses, d'additifs en tout genre, bien sûr, d'additifs en tout genre. Et bon, il y a le chocolat un peu comme un prétexte. Alors, c'est pas du tout du snobisme de dire que je refuse ça. C'est pas du tout ça, mais c'est surtout de dire arrêtez de consommer ce genre de choses qui n'a rien à voir avec le chocolat, qui galvaude l'image du chocolat et qui nuit à la santé.
Bertie Lacaisson, quelle est l'idée reçue qui vous agace le plus?
La section des... on découpe par pays. La France et les États-Unis, à mon avis, font les meilleurs chocolats du monde. Et il y a le chocolat de masse qui a fait la réputation de la Suisse et de la Belgique. Qui sont pour moi un peu, c'est une réputation usurpée.
Les États-Unis font du très bon chocolat.
Alors oui, et ça tient. Alors bien sûr, 80% c'est Hershey et Mars, mais c'est le même pourcentage avec en France où c'est Nestlé et d'autres industries. Mais aux États-Unis, il y a tellement de petits artisans, et ça tient à l'entrepreneuriat. c'est assez récent, surtout c'est depuis 2007. Il y a un mouvement du bean to bar. Ça tient à la facilité de créer une entreprise. On aime un truc, on y va, on se lance, on est passionné et les conditions économiques sont faciles pour commencer son projet. Et il y a la moitié des chocolatiers, des petits chocolatiers dans le monde, sont américains.
Nathalie Lal.
Oui, bah, je suis d'accord avec lui. Alors, je ne connais pas très bien les chocolats américains. En revanche, c'est vrai qu'on trouve quand même, et heureusement, des très bons chocolats en Suisse.
En Belgique.
Et en Belgique. Il y a notamment en Suisse une marque formidable, c'est le groupe Felchlin, qui est assez confidentiel et qui a une très haute exigence de qualité. Mais on a en France la chance d'avoir des artisans extraordinaires.
Allez-y, pardon.
Oui, alors en France, on a des vieilles sociétés familiales comme Bona, Pralu. C'est une vieille tradition. Et j'apprécie de voir des tout nouveaux qui, comme aux États-Unis, je pense à Encuentro, par exemple. Il y a des tout nouveaux qui font, qui laissent l'espoir pour une nouvelle génération. Et on a la même chose en Suisse. Orfèvre est merveilleux. Et en Belgique, Cédric Duthay. C'est vrai, mais c'est nouveau.
Guillaume Todicino.
Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on préfère le chocolat au lait ou alors on se fait clouer au pilori?
Mais Guillemette,
que cette mode du chocolat noir et alors
snobisme
plus,
plutôt.
Snobisme, oui. Et plus vous montez dans le pourcentage, c'est-à-dire 90, 92, 102% de cacao et là tout d'un coup, c'est censé être la panacée.
Mais Guillemette, vous avez tous les droits, c'est juste une question. Non mais c'est vrai qu'il y a une sorte de snobisme, d'élitisme autour du chocolat noir pure origine.
Surtout, oui.
C'est vrai que ça fait bien de dire dans certains milieux qu'on mange que du chocolat noir pure origine. C'est vrai qu'il y a une redécouverte aussi du chocolat noir depuis quelques années, mais ça tient aussi au fait que pendant de très nombreuses décennies en France, eh bien, on ne connaissait que du chocolat au lait, gras, sucré et lourd, et qu'il a fallu un Robert Lynx dans les années 70-80 qui a lancé la ganache et qui a redonné ses lettres de noblesse au chocolat noir pour qu'on redécouvre enfin le chocolat noir.
Bertie Lacquesson. Sur ce snobisme du chocolat noir.
J'adore le chocolat au lait, j'ai une tablette de 55% où c'est la priorité au cacao. Je mets pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de lait, plus de cacao. Mais on peut encore faire une belle alliance. Et il faut trouver la bonne fève, le bon chocolat pour aller avec le lait aussi. Le Brésil se porte bien pour ça.
Nathalie Elal, dans votre dictionnaire exquis du chocolat, un chapitre consacré à la santé. Le chocolat fait partie de ces aliments qui nourrissent une relation étroite avec la santé.
Oui, depuis très longtemps. En fait, ça a commencé avec un individu qui s'appelait Sulpice de Beauve. Vous savez, la maison de Beauve et Gallet à Paris, bien connue. Sulpice de Beauve était pharmacien du roi et de la reine. On est sous l'ancien régime. Et il est donc apothicaire pharmacien et il veut faire prendre des remèdes à Marie-Antoinette. Mais le problème, c'est que les potions qu'il veut lui faire prendre sont très amères, pas du tout au goût de la reine. Donc, il cherche un moyen de lui faire prendre intelligemment ces potions. Il va avoir l'idée de les cacher, de les mettre en fait en poudre dans du chocolat. Il va mélanger du chocolat qui n'est pas en tablette, je le rappelle à l'époque, qui est sous forme de pâte de boudin de cacao avec ses potions réduites en poudre et il va fabriquer ce qu'on appelait des pistoles, donc des sortes de pièces de chocolat noir et les faire croquer à la reine. Et ça va tellement marcher qu'il va développer en fait tout un business pour l'époque et devenir ensuite la grande maison qu'on connaît aujourd'hui encore.
À Bannière de Luchon par exemple en 1897, un chocolatier met en stratégie publicitaire le chocolat comme chocolat de régime.
Oui, alors ça a été...
Il était pharmacien, je crois.
Oui, ça a toujours été en fait une histoire un peu passionnelle entre le chocolat et la santé. C'est vrai que beaucoup de pharmaciens s'y sont risqués. C'est vrai aussi qu'on retrouve, même chez des grands industriels, par exemple la maison Meunier, à l'origine était aussi un pharmacien apothicaire. Celui qui a inventé, enfin la famille Fry, qui a inventé en Angleterre la tablette, était aussi à l'origine des droguistes, pharmaciens, apothicaires, et le chocolat était sous forme de poudre, de farine, censée remédier à des carences, parce que le chocolat, et ça on l'a toujours su instinctivement avant même de connaître sa composition chimique réelle, eh bien revigorait, redonnait de l'énergie, redonnait du souffle.
Et il faut attendre 1908 pour que le chocolat soit rayé du codex des pharmaciens. Bertie Lacquesson. Sur les liens entre le chocolat et la santé.
Moi, je réfléchis pas à la santé quand je mange du chocolat. J'aime le goût.
Bonjour, docteur Catherine Lacronière.
Bonjour, Ali.
Alors, vous êtes médecin nutritionniste, grande amatrice de chocolat. Le chocolat est paré de certaines vertus thérapeutiques. C'est un aliment riche en flavonoïdes. Il s'agit d'un antioxydant, c'est ça?
Oui, tout à fait, d'une plus grande famille qui s'appelle les polyphénols. Mmh. Les antioxydants, ce sont des molécules qui luttent contre d'autres molécules que nous fabriquons naturellement, qui s'appellent les radicaux libres. Et quand on a un excès de fabrication de radicaux libres, eh bien, ça conduit à un vieillissement accéléré des cellules, ainsi qu'aux pathologies chroniques, de la pathologie cardiovasculaire, au diabète, en passant même par les cancers. Donc, ce chocolat est riche en flavonoïdes, et particulièrement l'un d'entre eux, qui s'appelle l'épicatéchine. Il y a plusieurs études qui ont été menées, donc une très large étude sur 990 patients, une étude française. Ces patients étaient infectés par le virus de l'hépatite C et le VIH. Et on a montré, eh bien, qu'en mangeant régulièrement du chocolat noir au-delà de 70% de poudre de cacao, on avait une meilleure protection chez ces patients du foie. Il est donc hépatoprotecteur.
Étude de l'INSERM menée par le professeur Philippe Sonny et l'épidémiologiste Patricia Carrieri. Y a-t-il d'autres effets des flavonoïdes, Catherine Lacrenière ?
Oui, alors on a beaucoup d'essais. En particulier, on a cherché à voir s'il y avait une amélioration, une meilleure prévention du cancer colorectal. Alors là, c'est pas tout à fait, c'est assez controversé. On a besoin d'encore plus d'études pour le dire. Même chose au niveau des pathologies cardiovasculaires. Il semble cependant que manger du cacao, manger du chocolat favorise la fluidité sanguine. Et puis, on a toujours un doute, mais on ne devrait pas l'avoir quand on est diabétique, parce que quand on utilise un chocolat élevé en poudre de cacao et qu'on y a peu de sucre, eh bien on peut, quand on est diabétique, manger du chocolat, l'incorporer dans ses habitudes alimentaires.
Alors le chocolat donne le moral, il contient des molécules dont la structure est proche ou qui sont des précurseurs des endorphines.
Tout à fait. La phényléthylamine et la tyramine, qui sont en effet proches au niveau de leur structure des endorphines, vous savez, ces fameuses molécules du bonheur, associées avec une autre molécule qui s'appelle la théobromine, qui est, elle, psychostimulante, donc qui vous réveille, et au magnésium, dont la quantité n'est pas négligeable dans le chocolat, eh bien tout cela aiderait à être de bonne humeur, à condition, bien entendu, qu'on n'en consomme pas trop, parce qu'on rappelle que 100 grammes de chocolat, c'est quand même entre 520 et 550 calories. Et alors, votre aliment du bonheur, quand il est consommé en excès, il risque bien de vous créer une dépression si vous prenez des kilos.
Soyons honnêtes, toutes les vertus thérapeutiques du chocolat, il y a un effet si on en mange beaucoup tout de même, Catherine Lacrenière.
Tout à fait, un effet sur le poids. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas en consommer. Quand vous avez fait un calcul à base d'oxalate, eh bien, il faut savoir qu'il faut éviter d'utiliser du chocolat parce qu'il en contient. Ainsi que les personnes qui présentent un reflux gastro-œsophagien, vous savez, l'acidité qui remonte, eh bien, en fait, le beurre de cacao favorise le relâchement de ce qu'on appelle le sphincter, c'est-à-dire la zone musculaire entre œsophage et estomac. Et c'est donc, ça va aggraver le reflux gastro-œsophagien. Et puis, il y a ceux qu'il ne faut pas oublier, les chiens, qui ne doivent pas absolument prendre du chocolat, puisque cette théobromine qui est tellement positive pour l'homme, l'est beaucoup moins pour le chien, elle peut être extrêmement dangereuse.
Nathalie Elal.
Oui, c'est vrai qu'on a démontré, enfin, une étude britannique a démontré qu'il y avait un accroissement de la mortalité canine pendant les périodes de fête. Et c'est dû, en effet, à la consommation des jeunes chiens, accidentellement, évidemment, probablement aussi, de trop de chocolat. Mais je voulais quand même souligner une chose dans les vertus du chocolat. Il y a aussi la vertu du beurre de cacao qui est présent tout simplement dans un cosmétique très courant qui est le baume à lèvres, parce que le beurre de cacao est extrêmement cicatrisant et les Aztèques l'avaient déjà compris à l'époque au 14e siècle parce qu'ils s'en servaient pour guérir les morsures de serpents et toutes les blessures et les gerçures en tout genre.
Et petite dernière question, Catherine Lacrenière, vous êtes une spécialiste de l'inflammation chronique. Est-ce que manger beaucoup trop de chocolat, et notamment du chocolat de mauvaise qualité, et en particulier des barres chocolatées, est-ce que ça peut favoriser l'inflammation à bas bruit?
Inflammation à bas bruit qui peut... Je rejoins Nathalie et là sur cela. C'est chocolat qui finalement devrait même pas s'appeler comme ça, puisqu'on leur a rajouté beaucoup de graisses qui ne sont pas les bonnes graisses entre guillemets du chocolat de qualité, du chocolat noir, et beaucoup de sucre. Eh bien, ça va entretenir une inflammation chronique, une inflammation invisible à l'œil nu, mais qui va favoriser les pathologies chroniques, justement cardiovasculaires et autres. Et donc, mais comme d'habitude en nutrition, on est là dans l'excès. À partir du moment où on choisit un chocolat de bonne qualité. Noir, je suis désolée pour guillemette, mais c'est vrai, c'est un chocolat noir au-delà de 70% de poudre de cacao, qu'on consomme de manière raisonnable. On ne sait pas exactement ce qu'il faut comme quantité de polyphénols. polyphénols, mais a priori, l'équipe de Philippe Saunier et Patricia Carreri propose 3 à 4 carrés par jour dans leur étude, c'est-à-dire 30 à 40 grammes de chocolat noir. Si on fait attention à son poids, eh bien, on en fait 1 à 2 carrés par jour. Cette régularité ne peut faire que du bien à la santé.
Et qu'est-ce qui vous fait du bien, vous, Catherine Lacronière, en matière de chocolat? Quel est votre préféré?
Le chocolat en règle générale, et après vous avoir raconté que le chocolat noir est extraordinaire, et ben moi j'ai quand même un petit faible pour le Jean-Dujard.
Merci beaucoup.
Voilà, comme moi.
Merci beaucoup, docteur Catherine Lacronière. Alors Nathalie Hélal, le chocolat cru est très en vogue pour ses vertus santé, à tort ou à raison?
Bah, probablement à tort. D'ailleurs, le syndicat national des chocolatiers a publié récemment une information à ce sujet, parce qu'il y a une espèce de mode comme ça du chocolat cru. Mais en réalité, si on chauffe les fèves, depuis toujours d'ailleurs, hein, puisque je vous ai raconté tout à l'heure qu'en dessous de la pierre à chocolat de Metate des Aztèques, déjà, il y avait un petit feu qui était allumé et que ça continue ensuite. Si on les a torréfiés, c'est bien pour une raison aussi, c'est pour éviter, pour tuer les bactéries. Donc c'est potentiellement, il faut le répéter, il faut vraiment le marteler, parce que je pense que les gens ne s'en rendent absolument pas compte. C'est dangereux de consommer du chocolat cru, potentiellement dangereux. Le jour où il y aura un pépin avec ça, il y aura toute une vague de lois sur ce problème.
Bertie Lacaisson.
Ah, je confirme absolument. Et d'autre part, la fonction de la torréfaction, c'est aussi pour développer le goût. Et j'ajoute que c'est même pas cru, parce que selon leur théorie, il faut pas que ça dépasse les 46 degrés. Or, nous avons fermenté les fèves avant, et c'est un phénomène qui se passe à partir de 47 degrés.
C'est faussement cru, en plus.
Et donc,
oui,
c'est faussement cru. Et même oui, le séchage sur les plantations, je peux vous dire que c'est à plus de 46 degrés. En plein soleil, sous les tropiques.
Allez, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Interpréter note.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
10h37 et nous attendons toutes vos questions sur le chocolat. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Bertil Akesson, je rappelle que vous êtes propriétaire de plantations de cacaoyers et chocolatier. À quoi ressemble cet arbre? Le cacaoyer, il ressemble à quoi?
C'est un arbre qui va entre 7 et 15 mètres. Alors nous, on fait des plantations en agroforesterie, avec de l'ombrage, c'est pas du tout industriel, mais maintenant, ça ressemble à des petits arbustes quand on va dans des plantations industrielles. Ça, c'est autre chose qu'on a en Côte d'Ivoire, Équateur.
Mais alors justement, est-ce que je peux mettre un cacaoutier dans mon jardin? Est-ce qu'on peut planter des cacaoutiers n'importe où, où il y a forcément des régions du monde?
Il va avoir du mal ici, mais il veut beaucoup d'humidité. On en parlait, c'est pas forcément un ennemi, il faut 2000... à 2500 mm d'eau répartie régulièrement dans l'année. Il faut une chaleur permanente, donc c'est tropical.
Oui, d'accord.
Nathalie Hélal.
Justement, le cacaoyer, c'est né au nord de l'Amazonie, hein, et ça poussait au départ à 600 mètres d'altitude. Effectivement, un climat tropical, c'est venu bien après. Ça a été exporté bien après vers l'Afrique, hein. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez drôle à ce sujet. C'est qu'en Côte d'Ivoire, au début, quand on a planté les premiers cacaoyers, eh bien, les locaux se méfiaient de cette plante et ils arrosaient la nuit les jeunes plants de cacaoyers avec de l'eau bouillante pour les détruire. Alors qu'aujourd'hui, ça fait vraiment la fortune de la Côte d'Ivoire, qui est, je le rappelle, à 43%, hein, le plus grand producteur mondial de cacao.
Tiens, le journaliste Paul Moreira, justement, est allé en Côte d'Ivoire explorer les conditions de travail dans les plantations de cacaoyer. Écoutons un extrait de la face cachée du cacao.
Le travail consiste à ouvrir les cabosses de cacao à coups de machette. Il faut avoir le geste juste. Les coques sont dures et les machettes tranchantes. À l'intérieur de la coque, les précieuses fèves de cacao, encore blanches et humides. Elles sont isolées pour une première opération de séchage. Le très jeune âge des ouvriers saute aux yeux. Ici, un travailleur sur trois est un enfant. Ces très jeunes gens ne sont pas ivoiriens. Ce sont tous des migrants. Ils sont venus du Burkina Faso, le pays voisin. Là-bas, il ne pleut plus depuis longtemps. Et le cacao de Côte d'Ivoire est souvent le seul espoir de survie.
Bonjour Paul Moreira.
Bonjour.
Vous avez réalisé un excellent documentaire, La face cachée du cacao, que l'on peut regarder sur le site de Public Sénat. Alors, vous rappelez que l'industrie du cacao pèse près de 100 milliards de dollars par an et que les cultivateurs en touchent seulement 6%. Vous nous montrez de terribles conditions de travail, travail des enfants, en esclavage.
Oui, moi-même, je l'ai découvert, je m'attendais à trouver des enfants au travail. Ce que j'ai découvert, c'est bien pire que ça. C'est un système, littéralement, de trafic d'enfants. On a pu le documenter en caméra cachée, pas très, très facile. Et en fait, ça se passe comme ça. Au Burkina, il pleut plus, pour des raisons qu'on connaît, notamment liées au réchauffement climatique. Et les paysans pauvres ne peuvent plus faire vivre leurs enfants. Ils les vendent à des passeurs. Ça coûte 200 euros un enfant. Puis les enfants sont emmenés dans des bus jusqu'à Giblo, qui est donc une des villes de la région du cacao en Côte d'Ivoire. Et ils vont ensuite travailler pendant plusieurs années gratuitement pour des planteurs divers. Et la promesse qu'ils ont, c'est qu'au bout de plusieurs années de travail gratuit, on va leur donner ce qu'on leur vend pour étant un hectare, qui sont en fait trois arbres. Et à partir de là, ils sont doublement esclaves, puisqu'ils vont pouvoir juste ramasser un sac et demi par an, c'est-à-dire en gros l'équivalent de 200 euros. Ce qui leur permet à peine de survivre. Et tout ce cacao va nourrir des coopératives qui sont en bordure de forêts, forêts totalement détruites par cette exploitation anarchique du cacao. Et c'est un désastre.
Quand on croque dans une tablette de chocolat, il y a hélas des chances de manger du cacao récolté par des enfants esclaves.
Il n'y a aucun système de traçabilité, et c'est ce qu'on établit dans notre enquête, qui permet de dire que dans le chocolat qu'on mange aujourd'hui, il n'y ait pas du cacao ramassé par des enfants esclaves. Aucun système de traçabilité, puisqu'on a remonté la chaîne, les sacs étaient là et on est remonté jusqu'à la coopérative. Après, c'est une espèce de monde opaque, vous voyez, la coopérative ne veut pas vous dire à qui. Coopérative, c'est en fait une entreprise qui achète les sacs de cacao, hein, c'est pas du tout une coopérative. Elle ne veut pas vous dire pour qui elle travaille, elle ne va pas vous dire l'entreprise à qui elle vend les fèves. C'est un secret. Donc évidemment, en enquêtant un peu, en parlant avec les chauffeurs des camions, on découvre que c'est Cargill, une grosse multinationale américaine. Ensuite, on va un peu les enquiquiner pour qu'ils nous parlent. Ils hésitent un peu et puis ils nous parlent et ils reconnaissent que oui, il n'y a pas de traçabilité. Et bon, pour l'instant, hein, mais que l'année prochaine, ça ira mieux. Et c'est toujours l'année prochaine, ça ira mieux. Il y a 20 ans, il y a toutes les entreprises, toutes les multinationales du cacao s'étaient solennellement engagées. Ils ont signé un texte aux États-Unis en disant qu'il n'y aura plus de travail des enfants dans 5 ans. 20 ans après, non seulement il y a du travail des enfants, mais les conditions se sont détériorées. Et 90% de la forêt ivoirienne, c'est des forêts primaires. Elles sont essentielles pour notre survie à nous. C'est pas une histoire exotique, hein. C'est quand tu détruis de la forêt primaire, eh ben en fait tu crées des conditions climatiques qui vont être catastrophiques pour nous, qui vont être catastrophiques pour les villes européennes et pour la planète. Donc tout ça est absolument, c'est une sorte de Far West qui est très difficile de pénétrer. Les flics sont corrompus. On mène une opération de reportage dans les zones du cacao de l'ouest de la Côte d'Ivoire comme on travaille en zone de guerre.
Pour arracher ces enfants aux plantations de cacao, il faut peut-être que les industriels augmentent le prix du cacao. Problème, ce prix se répercuterait peut-être sur le prix de la tablette.
Le prix du cacao, c'est la chose qui m'a plus révolté, en fait, parce que ces gens... Ces cultivateurs travaillent de l'aube à la nuit pour 0,86 centimes d'euros par jour. C'est très très loin du taux de survie. Et ils nourrissent une entreprise, un secteur industriel, pardon, qui fait 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est vraiment une des plus grandes injustices qui m'a été donnée de constater. Et c'est ils le savent, hein, les industriels du cacao. Je suis allé les voir dans leur Davos annuel et je leur ai dit, mais comment vous osez payer si peu les gens? Ils disent oui, mais oh non, parfois il y a des expériences pour les payer un peu mieux. C'est une réalité dont tout le monde sait qu'elle est totalement scandaleuse, mais comme elle est dissimulée, c'est business as usual, la vie continue et personne ne met son nez dedans. C'est la première fois de ma vie que je fais une enquête où je mets en lumière vraiment des injustices et des dysfonctionnements des multinationales et qu'elles me disent oui, vous avez raison, on est au courant, c'est comme ça, c'est pas bien, il faudrait changer.
Nathalie Lalle.
Oui, Paul Vanrera, il y a une chose que vous mettez très bien aussi en avant dans votre documentaire, j'ai trouvé remarquable, c'est qu'il y a une sorte de double peine pour ces enfants esclaves, c'est que non seulement ils sont esclaves, mais qu'en plus, ils utilisent à main nue, sans aucune protection, du glyphosate pour détruire la végétation et pour donc détruire cette forêt native et la remplacer par des cacaoyers. Donc en plus, il y a la mainmise de grandes multinationales qui amènent des substances toxiques pour nous, aussi peut-être dans notre chocolat, hein, ce qu'il faut le dire aussi.
Bertie Lacaisson, réaction, oui. Rassurez-nous, pas d'enfants esclaves dans vos plantations de cacaoyers?
Non, mais on est une goutte d'eau. Parce que le commentaire de M. Moret est absolument juste. On a un souci, on a 5 millions de producteurs dans le monde, des millions de consommateurs, et au milieu, vous avez 4 transformateurs qui vont faire 65-70% du chocolat dans le monde. Des grosses multinationales qui n'ont pas de marque, et ça va être, on a parlé de Cargill, Olam, Blommer, et ces gens ont évidemment un pouvoir énorme. Il y a un taux de concentration énorme. Plus que dans n'importe quelle autre industrie. Barry Calbo fait 40% du chocolat dans le monde, de la couverture. C'est énorme et ils achètent 25 à 30% du cacao dans le monde. Et alors, ils ont fait un système de traçabilité directe jusqu'à 45 000 producteurs, mais ils ont 1 million de fournisseurs. On peut pas, ils n'ont pas les moyens d'aller au fond des forêts, de voir tous les intermédiaires. L'organisation logistique ne le permet pas. Alors, on parle aussi trop peu de la déforestation. On a, depuis 40 ans, on est passé de 4 millions à 10 millions d'hectares cultivés en cacao. C'est trop, mais c'est lié à la consommation de masse. Le chocolat devrait être un produit de luxe et devrait coûter beaucoup plus cher. Vous avez raison avec le prix. Un petit planteur ivoirien touche 50 cents de dollars par jour, alors que le seuil de pauvreté établi par la Banque mondiale est de 2 dollars par jour. C'est pas suffisant, évidemment, très loin de là. Mais est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher leur cacao? Non. Et c'est bien là qu'il y a un problème. Le prix est au plus bas de toute l'histoire. On parle même jamais d'inflation quand on parle du prix du cacao.
dans l'absolu, si on voulait être vertueux, effectivement, je suis d'accord avec Bertil, il faudrait revenir à un chocolat plus cher et plus rare. C'est-à-dire que le chocolat s'est tellement démocratisé, banalisé, galvaudé même, qu'effectivement, on est prêt, les industriels sont prêts à tout et à brader ce chocolat au mépris eh bien, des planteurs.
Comment savoir si on mange du chocolat qui n'implique pas le travail des enfants? Quelles sont les démarches vertueuses et sincères? Il faut se tourner vers le chocolat éthique, Bertil Akesson.
Déjà, ne pas acheter son chocolat en supermarché. 80% du chocolat est vendu en supermarché. Il faut aller vers des petits artisans. Et il y en a de plus en plus, c'est une bonne chose. Mais, et ils ont besoin de soutien parce qu'ils ont un problème d'accès à la distribution.
Nathalie Lal.
Oui, alors justement, avant de venir, je me suis livré à une petite expérience parce que je vous ai amené trois tablettes. Une qui vient d'un grand artisan français, Stéphane Bonnat. Une autre qui vient, je peux citer les marques, de Côte d'Or, ça c'est le groupe Mondelez. Un bio. 70% bio de cacao qui honnêtement est très très intéressant et pas cher. 2,89€ la tablette et franchement, je trouve qu'il en vaut la peine et ça me fait mal
mais
de faire de la
pub
pour Mondelez. Excusez-moi de vous
bon
le dire.
Et puis, ça participe pas à ce qu'on disait.
Le fait qu'il soit bio, c'est que, là, est-ce qu'on peut être sûr de cette traçabilité?
Oui,
alors
là, on peut être sûr de la traçabilité de
est-ce
ce bio.
Est-ce que bio veut dire pas d'esclave? Enfin,
ça veut rien dire. Moi, je suis. 50% des certifications sont bidons.
D'accord.
Voilà. Et peuvent pas. Et d'ailleurs, il y a trop. Il n'y a pas assez de marché pour tout le cacao équitable. Oui. 33% du cacao équitable produit ne trouve pas preneur.
Vous confirmez, Paul Moreira?
Oui, oui, absolument. Enfin, c'est toujours un geste utile d'acheter un cacao certifié, mais le chiffre de 50% bidon, c'est tout à fait le cas, parce que sur place, encore une fois, c'est tellement chaotique qu'il n'y a pas de procédure réelle de travail.
Mais le système...
Donc je sais qu'au Ghana, ça se passe un peu mieux, il y a quand même des lueurs d'espoir ici ou là, mais c'est... Je ne sais pas, hein, je ne suis pas suffisamment, disons, dans la macroéconomie du cacao pour dire qu'il faudrait de cacao. Le chocolat coûte deux fois plus pour qu'il soit éthique. Je sais qu'il y a une industrie qui fait des dizaines et des dizaines de milliards de profits. Donc un peu de redistribution déjà, ce serait humain. Quoi.
Paul Moreira.
Payer en sortie de champ les gens 0,80 centimes d'euros qu'on les paye 1,5€, 2€ et ça changerait leur vie. Ils enverraient leurs enfants à l'école, ils les enverraient pas travailler. Et ça, ils le savent. Les industriels du chocolat, ils le savent, ils le font pas. Il faut un peu leur mettre la pression pour qu'ils le fassent.
C'est pour ça qu'on vous a invité ce matin, Paul Moreira, et saluons le travail d'ONG comme Mighty Earth qui alerte le public sur le travail des enfants esclaves dans certaines plantations de cacaoyers. Merci beaucoup, Paul Moreira. Je recommande vraiment vivement La face cachée du cacao. C'est diffusé sur Public Sénat. Allez sur leur site pour le regarder. Merci beaucoup. Nathalie Hélal, comment on reconnaît une bonne tablette de chocolat? Et d'abord, qui l'a inventé, cette tablette de chocolat?
Alors,
ce sont des Britanniques?
Oui, alors c'est assez drôle parce que en fait, avec le chocolat, vous retrouvez quasiment trois grandes religions. Vous retrouvez les Juifs de Bayonne qui ont amené le chocolat depuis l'Espagne et le Portugal dont ils avaient été chassés, en tout cas qui ont amené le savoir-faire. Et puis, vous retrouvez pour la tablette les Quakers. Alors, les Quakers protestants, donc avec une mentalité très moralisatrice, évidemment, pas d'alcool, le paternalisme dans l'entreprise. Et c'était le cas de Joseph Fry et de ses fils. Et Joseph Fry va réussir à inventer la tablette de chocolat pour en fait essayer de proposer un produit de substitution d'abord à des ouvriers dans la ville de Bristol qui est littéralement ravagé par l'alcool.
Ils ont la bonne idée de mélanger du beurre de cacao, de la poudre de cacao et du sucre.
Oui, et la poudre de cacao qui vient, elle, des Pays-Bas grâce à un certain Van Houten qui a inventé, qui a dégraissé parce que le cacao c'est super gras, c'est la matière grasse pure, donc il a dégraissé le cacao. Donc grâce à Van Houten, on a la poudre de cacao maigre et les frères Fry vont mélanger effectivement sucre et puis beurre de cacao et cette poudre et en faire la première tablette de l'histoire. Donc c'est pas une invention française.
Et ils baptisent ce chocolat croqué, ils le baptisent en français chocolat délicieux à manger.
Oui, parce que ça faisait très chic, le chic parisien de l'époque.
Comment on choisit sa tablette? Comment, du point de vue gustatif, quels sont les critères Bertil Akesson, tiens, comment on choisit une bonne tablette? Vous nous avez apporté de très très bonnes tablettes, de très grande qualité. Comment on reconnaît une bonne d'une mauvaise tablette de chocolat?
Alors déjà, il y a... je l'achète pas en supermarché. Je vais dans des magasins spécialisés et on déguste. Il y a la l'étiquette de la tablette, les références à la plantation. L'origine ne suffit pas, on ne réfère pas assez au travail du planteur d'ailleurs, c'est une plantation derrière. Donc la plantation, on parle de pourcentage de chocolat, de cacao, évidemment, mais on peut avoir du mauvais cacao, c'est pas seulement une question de pourcentage. Et puis le chocolat, c'est deux ingrédients, c'est du cacao et du sucre, pas trop de sucre de préférence. Et je vois, vous avez en main une tablette, quand on lit la composition, mais ça me donne la chair de poule.
Oui. Alors, je vais absolument le dire, parce que je trouve ça scandaleux. Alors, c'est la marque Lindt, la gamme Lindor, qui fait un chocolat passionnément fondant noir. Alors, expliquez-moi comment, au dos de cette tablette, je retrouve du copra, c'est-à-dire des huiles basse qualité, du karité, c'est-à-dire autre chose que du beurre de cacao qui devrait absolument pas être là-dedans, du lactose, de la poudre de lait et même des traces de fruits à coque. Alors ça, c'est le principe de précaution, on le sait. Enfin, qu'est-ce que ça vient faire dans une tablette à 2,69 €, je crois? C'est scandaleux.
Et à contrario, dans la tablette ultra confidentiel, faut le dire, de Monsieur Akesson, chocolat bio, eh bien on retrouve du cacao bio à 75%, du sucre de canne bio, du pur beurre de cacao bio, des baies roses bio, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. C'est vrai que il faut regarder les étiquettes, et c'est vrai que je suis scandalisé quand on voit qu'il y a de l'huile de copra, de l'acide butyrique, du beurre de karité. Le beurre de karité, c'est fait pour on s'en met sur la peau, on la met pas dans le chocolat. Quoi.
Le stick à lèvres dont je parlais tout à l'heure, mais pas, enfin pour le coup pas au karité. Hein, c'est plutôt au beurre de cacao. Il n'y a même pas ça. Mais c'est vrai que là encore, on touche au porte-monnaie de la ménagère, bien évidemment. C'est vrai qu'entre 2,69 €, 2,89 €, et là, la tablette de Bonnard à 8,20 €, qui est une tablette d'exception de Los Colorados d'Équateur, c'est vrai que la ménagère se dit que c'est pas possible.
Normal. Et puis c'est vrai qu'avec le joli packaging de Lindt, on a l'impression d'acheter du chocolat de qualité, alors que pas du tout.
Puis il y a l'aura, le prestige de la marque suisse. Alors j'ai rien contre le chocolat suisse, il y a des chocolats suisses extraordinaires, c'est pas la question. Mais je trouve qu'il y a des choses qui ne devraient absolument pas se retrouver là-dedans, et c'est mensonger.
Guillemette Odissino.
Justement, alors dans ce qui est biscuit, vous savez, ces trucs qu'on achète pour nos enfants, pour les goûter, etc. Enfin, comment ça se fait que chaque fois qu'on mange un truc, un biscuit au chocolat, on a l'impression que c'est le même? Enfin, que le chocolat a le même goût tout le temps, quoi.
Ça n'a pas le goût
et
de chocolat.
Et pas bon, d'ailleurs. Oui, non. Ça a le goût de lécithine, je ne sais pas de quoi ça a goût, mais c'est le même chocolat partout.
C'est le fameux cacao de masse, hein. Je pense que Bertil peut expliquer
ça
très bien.
C'est l'industrie de masse, c'est un chocolat insipide.
Et le même qui est vendu à tous les biscuitiers, quoi.
Les premiers frimas arrivent, chère Nathalie Hélal. Comment préparer un bon chocolat chaud? Quelle est votre recette imparable?
Ma recette secrète pour vous, ce matin, en exclusivité sur France Inter. Alors, pour 2 tasses de chocolat, 35 centilitres de lait, d'accord, lait entier de préférence. Vous ajoutez 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, vous faites bouillir gentiment tout ça. Vous laissez reposer, vous ajoutez de la vanille. Alors soit une gousse de vraie vanille, soit des graines de bonne vanille. Évidemment pas de sucre vanillé, s'il vous plaît. Ensuite, vous ajoutez 100 grammes de chocolat noir de préférence à 60-70% coupé en morceaux. Vous mélangez tout ça et surtout, et c'est là l'arme secrète de la recette, vous placez de côté au frigo jusqu'au lendemain. Donc ça va épaissir tout seul, miraculeusement. Vous le réchauffez le lendemain tout doucement et vous mélangez. Alors si vous avez le moussoir, c'est merveilleux. Je pense qu'il faut le chercher aujourd'hui dans les musées ou le faire
dans
sur mesure.
Brocantes.
Oui, dans les brocantes sur mesure par un menuisier, mais avec un petit fouet à main, ça va très bien, c'est délicieux.
Alors je ne sais pas vous, mais il y a un ustensile que j'adore, c'est la chocolatière. Quel bel objet.
Ah, c'est sublime, c'est sublime. C'est vrai que j'en ai vu récemment dans le musée, je le cite parce qu'il est formidable, le musée Chocostory de Bruxelles, il y a une collection incroyable, improbable de chocolatières anciennes.
Bonjour Serge Guérin, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, grand amateur de chocolat. Quel rapport entretenez-vous avec cette gourmandise?
D'abord tout simplement un plaisir assumé et un plaisir partagé. Parce que le chocolat, on peut en prendre. J'ai toujours une tablette de chocolat dans mon bureau. D'ailleurs, les gens autour de moi le savent et viennent de temps en temps m'en demander. Donc c'est à la fois un plaisir à soi, mais c'est aussi le plaisir du partage.
Quel type de chocolat offrez-vous?
J'offre du chocolat que j'aime. Il y a 2 solutions. Ou vous réoffrez du chocolat qu'on vous a offert et qui est dégueulasse. Les marques qui ont été évoquées tout à l'heure.
Ça, c'est mesquin. Ça, vous pouvez mesquin.
Vous aimez pas trop. Ou des gens dont vous savez qu'ils aiment pas tellement de chocolat, finalement. Ou bien, vous découvrez tel ou tel chocolat incroyable et du coup, vous avez envie de le faire partager.
Quel est le chocolat le plus incroyable que vous ayez dégusté, Serge Guérin?
Moi, j'ai été fasciné par un espèce de dieu vivant qui s'appelle Jacques Genin et qui m'a fait découvrir des séries de ganaches ou de chocolat assez assez incroyables. Je me souviens d'un avec du capre. J'aime pas du tout le capre parce que j'ai vraiment le bec sucré et puis je suis une petite chouchotte, quoi. Mais ce capre-là a une espèce de goût de noisette. Et donc, ça rajoute un petit quelque chose assez incroyable.
Bonjour Éric Libio. On vous retrouve régulièrement le mardi dans Grand Mais Vous Fasse. Alors oui. Vous n'aimez pas du tout le chocolat. Vous serez moyennement ami avec Serge Guérin, c'est ça?
Ben oui, et puis quand j'entends tout ce qu'ils disent sur le chocolat, qu'on pourrait m'offrir des chocolats dégueulasses, je suis assez content de pas aimer le chocolat. Ça fait 40 ans que je n'aime pas.
Pourquoi?
Ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Ben, en fait, j'ai eu une indigestion. Je suis allé avec mon père un jour au restaurant, j'avais 10-11 ans, et lui, son grand truc, c'était de prendre des profiteroles au chocolat avec un grand verre en supplément de chocolat chaud, très très noir. Alors du coup, j'ai fait comme mon papa, évidemment, à cette époque-là. Et j'ai été malade comme un chien, et depuis, je ne peux pas manger du chocolat, je n'aime pas ça, c'est un goût que je n'aime pas, ça va un peu mieux aujourd'hui, sur une île déserte, je pense que si je mourais de faim, je finirais par manger quelques graines de cacao, mais c'est quelque chose que je n'aime pas. Et ce qui est formidable, c'est que comme c'est quelque chose que tout le monde retient, parce que c'est relativement rare quand même de ne pas aimer le chocolat, et ben quand je suis invité à dîner, personne ne fait des desserts au chocolat, parce que tout le monde se souvient que j'aime pas le c'est chocolat, vrai. Et donc tout le monde est frustré, sauf moi. Et ça, c'est absolument formidable.
Il en reste plus pour les autres.
Serge Guérin, dans votre éloge politique du chocolat, vous n'êtes pas du tout tendre avec le chocolat blanc. Attention, Sonia De Villers vous écoute. Elle adore le chocolat blanc.
Ah mais, il n'y a pas de problème. C'est, Camus disait, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. Il suffit juste de ne pas appeler ça du chocolat blanc, appeler ça, je sais pas moi, du diabète sur pâte, et tout ira bien. Et qu'on laisse les gens, en effet, demander du diabète. Ils ont droit de se faire plaisir avec du diabète. Mais juste, c'est le terme. C'est que, du coup, on mélange les choses, et c'est plutôt bien, il me semble, de bien définir à peu près le plaisir qu'on peut avoir. Mais on a le droit d'avoir du plaisir avec du sucre. Il y a absolument, enfin, il faut pas faire non plus de moralisme. Mais juste de dire, le chocolat est quelque chose avec du cacao, et quand il y a juste du beurre, du cacao et plein de sucre, ça serait mieux d'appeler ça autrement.
Merci la question.
Après, mais
c'est parce que on a été submergé par le chocolat blanc industriel. J'ai fait une tablette pour mettre en valeur le chocolat blanc, pour mettre en valeur la fève de cacao. La moitié de la fève du cacao, c'est du beurre de cacao. Ce qu'il faut, c'est pas mettre beaucoup de sucre. Et j'ai une tablette avec seulement 19% de sucre et mise en avant de fèves, de plantations. C'est comme une éponge, ça prend le goût du cacao, le beurre. C'est là que se trouve le goût. Donc on peut faire un bon chocolat blanc.
Merci beaucoup Éric Libio et Serge Guérin pour le clin d'œil. En une seconde, quelle serait votre vie sans chocolat, et Nathalie Elal?
Triste et plate.
Bertie Lacaisson.
Évidemment.
Bertie Lacaisson, une vie sans chocolat.
Une vie sans aventure dans les tropiques.
Merci beaucoup Nathalie Elal, votre dictionnaire exquis du chocolat.
Merci, Ali.
Est publié chez Albin Michel. Merci Bertie Lacaisson, merci pour vos très bonnes tablettes. Merci à Muriel Pérez pour sa programmation musicale et aux standardistes de France Inter.